Les dépôts de vases à parfum reflètent donc à la fois les rites funéraires, mais aussi la vie que le défunt menait dans la vie réelle et qu'il souhaitait continuer à mener dans l'au-delà, une vie de fête et de banquet. Dans la tombe des léopards de Tarquinia, on voit donc au fond la scène de banquet qui est bien connue, et de chaque côté les serviteurs qui apportent diverses sortes de cadeaux, du vin, etc. Et l'un d'eux, comme vous le voyez là, tient à la main un grand alabastre. Il est donc en train d'apporter les parfums qui serviront à enduire les participants à ce banquet. Et bien entendu, c'est toujours difficile, archéologiquement, de faire le départ entre ce qui était déposé dans la tombe pour accompagner le défunt dans sa vie nouvelle de l'au-delà et les parfums qui avaient été utilisés lors de la cérémonie funéraire elle-même, comme par exemple dans ce bas-relief de Chiusi, conservé au musée du Louvre, où vous voyez les dames qui tiennent les vases à parfum et qui sont donc en train de préparer le corps pour l'inhumation. D'un point de vue archéologique, on a quelques exemples bien clairs désormais, grâce à des nécropoles bien fouillées, de cet usage des parfums. Dans la nécropole de Ponte Cagnano, à côté de Salerne, qui est une sorte de poste avancé des Étrusques vers l'Italie du Sud, on est pratiquement à la limite entre la zone majoritaire d'influence grecque, avec la colonie de Poseidonia, on est donc dans ce golfe de Salerne, où, à la suite d'une démarche pionnière de la surintendance dans les années 60, on a pu fouiller des milliers de tombes de toute période, depuis le Chalcolithique jusqu'à la fin de l'Empire romain. Et la nécropole de Ponte Cagnano est surtout connue grâce aux travaux de Bruno D'Agostino, de Luca Cerchiai et désormais de Maria Assunta Cozzo, et surtout connue par la qualité des tombes et la richesse des tombes de l'époque orientalisante et de l'époque archaïque. À partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître dans les tombes de Ponte Cagnano les aribales qui distinguent clairement les hommes et les enfants mâles des femmes. C'est un signe de l'acculturation grecque, le marqueur d'un usage et qui nous renvoie à la pratique de la palestre et donc de la bonne éducation. Dans une communication que Maria Assunta Cozzo avait fait dans un colloque tenu à Naples en 2011, elle avait présenté, par exemple, le cas de la tombe 1964 de Ponte Cagnano, où on voit que la ribale qui contenait de l'huile ou de l'huile parfumée apparaissait dans certaines tombes d'enfants, et dans ce cas précis, dans une tombe d'enfants entre deux onokoé et un skyphos, et qui montre bien que dès l'âge de 3 à 5 ans, qui est l'âge estimé de ce squelette, il y a une projection de l'identité d'adulte sur les enfants, et de ce qui fera, ou de ce qui était censé faire leur vie future, et donc une vie de banquet et une vie de palestre et d'huile et d'huile parfumée. Ce marqueur culturel, donc des exercices à la palestre, se retrouve aussi dans beaucoup d'autres tombes, y compris dans les représentations, comme la tombe de la Chimie de Chiusi vers 480, où, dans un contexte de sport, un contexte athlétique, un serviteur apporte un petit aribal à l'athlète qui fait des exercices. Enfin, comme partout, les huiles parfumées servaient de médicaments Et les Étrusques étaient réputés pour leur fabrication de médicaments. En tout cas, Théophraste, dans l'Histoire des plantes, au livre 9, paragraphe 15, qualifie le peuple étrusque de tyrennon pharmacopoion, c'est-à-dire de pharmacopoion ethnos, c'est-à-dire de fabricant de médicaments, en quelque sorte. Et l'Étrurie et le Latium sont d'ailleurs des contrées riches en plantes, d'après lui, les plus riches en plantes en dehors de la Grèce, et c'est une tradition qui se continuera à l'époque romaine. D'autres peuples italiques ont aussi fabriqué des parfums. À la fin de l'orientalisant moyen, Capoue commence à produire des parfums dans de petits conteneurs. Plus lente, par contre, est la diffusion dans les montagnes et sur le versant adriatique. Ces régions ne seront touchées profondément que par le développement de l'emporia grecque à partir des 6e et 5e siècles. Les cabanes fouillées à Satricome, par exemple, montrent que le parfum avait déjà un usage concret et quotidien. Et les tombes de Larine, vous voyez ici un exemple sur cette photo, dans le Samnium, montrent que la pénétration des parfums dans les rites funéraires est déjà bien présente au 4e siècle avant Jésus-Christ, puisque vous voyez à côté des vases du style de Knatia, un grand alabastre en albâtre. Avec la conquête romaine du littoral tyrrhénien, on peut se poser la question de savoir comment ces peuples montagnards ont adopté le parfum en suivant la culture grecque. On peut en avoir un aperçu grâce au mobilier des tombes. À titre de test, j'ai effectué un comptage des vases à parfum dans 50 tombes peintes de Pestum qui ont été publiées par Angela Pontandolfo et Agnès Rouveret dans un ouvrage remarquable qui s'appelle Les tombes dipinte di Pestum, paru en 1992. Il s'agit en fait de tombes de Lucaniens, donc des peuples des montagnes, mais très influencées par la civilisation grecque. Ce sont des tombes d'aristocrates, que l'on voit bien car elles sont peintes, donc ça suppose un certain degré de richesse. Et vous pouvez voir d'ailleurs ces tombes exposées dans le remarquable musée de Pestum. Et j'ai pris comme exemple les tombes qui sont datées dans le courant du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont toutes des tombes en caissons de tuf ornées de peinture. Alors, on a d'abord des tombes masculines, que vous voyez ici un exemple, qui sont toutes, fournies avec des armes qui les caractérisent et un service à boire qui comprend à la fois des coupes et des amphores de vin. Mais une grande majorité de tombes comportent aussi des flacons à parfum. Certes, 7 des tombes masculines n'en comportent pas, mais les autres en comportent, et bien entendu, ce sont les tombes féminines qui en livrent le plus. On a des tombes où on a jusqu'à un maximum de 9 vases à parfum, mais en moyenne, on en a 2, qui est le signe de cet usage funéraire. Alors, à cette époque, ce sont le plus souvent des lécithes à ribalisque, à figure rouge ou à vernis noir, de fabrication locale ou régionale, mais on trouve aussi quelques gouttis et 2 alabastres, surtout un peu plus tard, quand ils commencent à remplacer les lécithes. C'est aussi, dans ces tombes, on trouve aussi des péliquets, notamment 4 péliquets qui ont été trouvés dans des tombes féminines et 2 dans des tombes masculines. Et ces péliquets que vous voyez ici sont des conteneurs de moyenne dimension qui devaient servir à entreposer de l'huile parfumée en plus grande quantité que les aribales et les lécithes. Car ils servaient, on le sait par les représentations, ils servaient au transvasement dans les boutiques de parfumeurs et on en a par exemple une représentation sur une péliquet du musée de Tarquinia où on voit des parfumeurs, probablement, en train de transvaser depuis des pelliquets dans des petits conteneurs qui peuvent être des lessites, en fait, à l'aide d'un entonnoir. On les voit donc transvaser et détailler, en quelque sorte, les parfums. Mais on a donc cet ensemble caractérisé principalement par les lessites arabesques et aussi donc quelques pelliquets pour des quantités plus importantes. Les hommes, comme nous l'avons vu, sont moins entourés de flacons à parfum. Comme je l'ai dit, sur 25 tombes masculines, 7 n'en contiennent pas. Mais les autres ont tous au moins un flacon avec eux, en général un lessite, mais aussi des gouttis, et parfois deux vases, au maximum 4 d'ailleurs, dans une des tombes. La totalité de ces vases est de production locale ou régionale, ce qui implique que le parfum est produit dans la région même et le plus souvent à Pestum directement. Et nous verrons ultérieurement, dans un cours postérieur, que je propose d'identifier le marché à parfum de la Pestum d'époque romaine, fondation faite en 273 avant Jésus-Christ, dans la partie nord-ouest du Forum. Pour l'époque qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est-à-dire le IVe siècle avant Jésus-Christ, on n'a pas les mêmes renseignements, mais on peut imaginer que, de même qu'à l'époque romaine, la fabrication et la vente des parfums se fera sur le forum, que c'était le cas à l'époque gréco-lucanienne sur l'Agora. Mais là, l'Agora est localisée, mais n'a pas été encore véritablement fouillée. Et il faudra certainement être attentif à cette question lorsque cela sera fait un jour ou l'autre. Et pour en finir avec les tombes de Pestum, il y a très peu d'alabastre en pierre, un seul en fait, qui pourrait être importé d'Égypte et qui pourrait être donc un signe d'un luxe particulier. Il a été trouvé dans la tombe Andrioul 57, qui date du milieu du IVe siècle. Et on aurait donc là l'importation d'un parfum exotique qui montrerait une distinction particulière de l'occupant, si j'ose dire, de cette tombe. Mais le problème, c'est que la publication ne donne pas le détail exact de la nature de l'albâtre utilisé. Ça pourrait être un albâtre égyptien, mais ça pourrait être aussi une imitation faite en Italie, car on a mis en évidence une production de ces albâtres, de ces vases en pierre dans la nécropole de Tarente au cours des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. C'est un point sur lequel il faudra qu'à l'avenir, on soit beaucoup plus attentif dans les publications, bien préciser s'il s'agit de production véritablement égyptienne ou d'imitation locale. Donc, on voit l'intérêt de ces sondages sur les nécropoles déjà publiés, mais pour avoir une vision plus générale, il faudrait multiplier ce type de recherche dans chacune des nécropoles, ce qui, évidemment, je n'ai pas eu le temps de faire. C'est une recherche en soi dont nous retrouverons la lacune pour la période romaine. Alors, venons-en maintenant à Rome. On a longtemps prétendu que Rome avait méprisé les parfums, mais c'est un topos, c'est un lieu commun qui est véhiculé principalement par la littérature des moralisateurs, moralisateurs que sont Cicéron ou Pline, par exemple. Et on a dit parfois que les Romains n'auraient pas utilisé de parfums jusqu'au milieu du IIe siècle. Et on se souvient tous de la fameuse lettre 86 à Lucilius, écrite par Sénèque, qui décrit l'étroite et obscure salle de bain de Scipion l'Africain dans sa villa de Liternum, et qui rappelait qu'au début du IIe siècle, on ne se lavait complètement que les jours du marché et qu'une salle de bain étroite suffisait pour Scipion, qui, dit-il, venait laver sa sueur et non les parfums de la veille. Et il continue sur cette veine, Sénèque, en regrettant qu'à son époque, donc au milieu du premier siècle de notre ère, C'est peu de se parfumer, dit-il. Il faut renouveler les odeurs 2 ou 3 fois par jour pour qu'elles ne se dissipent pas. On se glorifie de ces odeurs comme si on en était doué par la nature. Mais c'est un lieu commun, et c'est un lieu commun qui a été certainement exagéré, car évidemment, les Étrusques qui dominaient Rome au VIe siècle avant Jésus-Christ, comme nous l'avons vu, faisaient un large usage des parfums, qu'ils soient locaux ou importés, et les aristocrates qui gouvernaient la République ne devaient pas non plus s'en priver dans la phase qui suit. Il est vrai qu'une brusque augmentation de leur usage s'est certainement fait jour après la conquête des provinces orientales, qui a poussé les matrones à réclamer le droit de se parer à l'oriental. Mais c'est surtout le signe d'une hausse brutale du luxe permise par les revenus des conquêtes et la mainmise sur les richesses de l'Orient, plutôt qu'une rupture totale avec un passé mythique où les gens ne se seraient pas parfumés. L'afflux des richesses est alors inouï et les magistrats de la République s'inquiètent des effets dévastateurs de ces richesses sur la cohésion sociale du corps civique. Car faire étalage de son luxe et se parfumer avec des parfums exotiques devient, dès lors, pour les nobles, l'un des moyens d'affirmer leur supériorité sur la plèbe, au même titre que posséder une grande demeure ou de boire des vins de prix. C'est d'ailleurs ce que fustigera plus tard Cicéron dans son fameux discours contre Catilina, livre 2, paragraphe 5, où il dit « Il me semble les voir dans leurs festins couchés mollement sur des lits somptueux, tenant dans leurs bras des femmes impudiques, affaissées par l'ivresse, gorgées de nourriture, couronnées de guirlandes, inondées de parfums, énervées de débauches, vomir dans leurs obscènes entretiens les mots affreux de carnage et d'incendie. » Mais en fait, il s'agit pour l'orateur de stigmatiser les parfums comme signe de dépravation et de décadence, suivant donc ce topos bien connu, tout en certainement les utilisant lui-même, bien entendu. Ce phénomène est donc plutôt une manifestation du luxe grandissant à Rome. Les femmes en avaient d'ailleurs été stigmatisées en 215 par la Lex Oppia, qui leur interdisait les parures trop voyantes et les vêtements du prix. Mais semble-t-il, la loi ne concernait pas les parfums et elle fut d'ailleurs abrogée dès 195 avant Jésus-Christ. Pour les parfums, il semble que ce soit les parfums, les censeurs de 89 avant Jésus-Christ, Publius Sucinius Crassus et Lucius Julius Caesar, qui ont pris des mesures destinées à interdire l'usage, mais non pas l'usage des parfums en général, mais des parfums dits exotiques. Ce qui est à la fois la preuve d'un très large usage de parfums locaux et également d'une large diffusion des parfums importés. La mesure est rapportée par Pline au livre 13, paragraphe 24. Mais en réalité, rien n'arrêtera l'essor de la consommation des parfums à la fin de la République et au début de l'Empire. Et comme aux périodes précédentes, la consommation sera multiforme, religieuse, médicale, sociale et hédoniste. Alors, comme en Grèce, on a d'abord un usage religieux. On honore les dieux, comme en Grèce, en faisant brûler de l'encens sur les autels. C'est le geste le plus courant du sacrifice qu'on voit, par exemple, sur le célèbre autel du temple dit de Vespasien à Pompéi, qui est en fait un temple du culte impérial dédié à Auguste, et on voit donc un sacrifice devant le temple lui-même qui représentait l'arrière-plan, vous voyez ici les colonnes, l'autel devant le temple et le prêtre qui fait brûler du parfum, là, vous voyez de l'encens, vous voyez les petits grains, avant qu'on amène la victime qui sera sacrifiée, en l'occurrence un bovin. Lors du triomphe de Paul-Émile à Rome, Plutarque nous dit que tous les temples étaient ouverts et remplis de couronnes et de parfums qui brûlaient. Le parfum à brûler fait donc partie intégrante de toute procession, depuis la célèbre Pompée de Ptolémée Philadelphe et jusqu'aux processions plus banales décrites dans les romans grecs. Comme l'a bien dégagé un article tout à fait intéressant de Madame Lallemand qui s'appelle « Les parfums dans le roman grec » paru dans un colloque qui s'appelle « Le monde du roman grec » en 1987. Un colloque s'était tenu à l'École normale supérieure qui était publié en 1992. Et j'en extrais simplement deux extraits qui, dans les romans qui donnent certainement une image de la vie la plus courante. Dans les Éphésiaques de Xénophon d'Éphèse, la procession en l'honneur d'Artémis comporte, je cite, « d'abord les objets sacrés, les torches, les corbeilles et les parfums à brûler, et ensuite les chevaux, les chiens et les objets destinés à la chasse. » Dans les Éthiopiques d'Héliodore, la procession des Éniennes entre à Delphes, avec des animaux et des jeunes filles, les unes portaient des paniers pleins de fleurs et de fruits, les autres chargés de corbeilles, de gâteaux et de parfums qui remplissaient l'endroit d'odeurs suaves. On voit donc que cette pratique dans l'ensemble du bassin méditerranéen se poursuit et, bien entendu, lorsque l'empereur est en campagne, il ne manque pas d'offrir aux dieux de l'encens et sur le célèbre bas-relief de la colonne Trajante, on voit le meilleur des princes qui remercie les dieux en brûlant des lampes d'encens tirées d'une boîte. À Rome même, les plus vieux rites font l'état d'offrandes d'encens et d'onctions de statues divines. Les actes des frères Zarval, qu'a explicité John Shade dans son ouvrage « Romulus et ses frères », font état chaque année d'offrandes d'encens et de libations de vin à Dea Dia pour attirer sur Rome sans bienveillance de déesses agraires et obtenir de bonnes moissons. On y trouve aussi mention de l'onction de statues de culte par un parfum spécial appelé l'umemulia à base de luma, qui est une sorte de menthe sauvage. Ce procédé de don contre don avec les divinités est une sorte de pacte de fidélité et de clientélisme passé entre les dieux et les hommes et clairement exprimé par Tibulle en dans les ouvrages de Tibulle, où il dit qu'on brûle un religieux encens dans le foyer, qu'on brûle les parfums que l'arabe voluptueux envoie de son riche pays, que les génies assistent en personne au spectacle des honneurs qu'on lui rend, sa chevelure sacrée ornée de souples guirlandes, que des gouttelettes d'un art pur découle de ses tempes, qu'il se rassasie avec le gâteau et s'arrose de vin pur, et qu'il te dise « oui, ô Cornutus, à tout ce que tu demanderas ». C'est en ce sens donc qu'il faut interpréter le passage de Pline au livre 13, où il s'élève contre le fait qu'on utilise des parfums à l'armée, et en disant « ce genre de luxe a pénétré même la vie des camps, les aigles et les étendards poudreux et gardés par des mains vaillantes sont parfumés les jours de fête. Plût au ciel que nous puissions dire quel est l'auteur de cet usage. Sans doute est-ce mû par ce salaire corrupteur que les aigles font la conquête du monde. » Et donc, on a affaire pour les usages religieux, que ce soit aussi bien pour rendre les statues que pour brûler de l'encens, à un geste fréquent, voire quotidien, qui est représenté très souvent, non seulement sur le temple de Vespasien, mais aussi, par exemple, sur un sacrifice à Priape que vous voyez sur un bas-relief de la collection Farnèse au musée archéologique de Naples, où le personnage sur un feu est en train de mettre des grains d'encens, ou dans les provinces, un sacrifice à des divinités locales sur un hôtel de Cologne, hôtel de Titus Flavius Constans, où on voit donc sur l'hôtel le prêtre en train de brûler de l'encens, usage donc extrêmement commun qui se poursuivra bien entendu dans l'église primitive où on continuera de brûler de l'encens et on consacrera les autels par effusion de parfums et par la suite on enduira les empereurs eux-mêmes comme des statues divines pour les mettre sous la protection de Dieu. Dans les funérailles, de la même façon, l'usage des parfums entrait dans les dépenses normales et on en a des sources juridiques, par exemple dans le Digeste, en 11.7.37 et en 15.3.7.3. Et on retrouve bien sûr ce type de dépenses mentionnées quelquefois dans le cas de funérailles prestigieuses, comme par exemple celle les funérailles publiques de Marcus Aubelius Firmus à Pompéi, qui a été duumvir, c'est-à-dire dirigeant de la cité dans les années 70 de notre ère. La tombe de Marcus Aubelius Firmus a été dégagée dans la nécropole de la Porta di Nola et on y a trouvé un enclos funéraire avec la tombe elle-même et une inscription qui détaille les dépenses qui ont été faites à l'occasion de cette cérémonie. Et il est dit qu'on a brûlé alors 30 livres d'encens, c'est-à-dire à peu près 10 kilos, et pour 1000 sesterces de parfums, c'est-à-dire une somme quand même relativement considérable. Et sur cette question, je vous renvoie à l'article de Stefano De Caro qui s'appelle « Scavi nella fuori della Porta di Nola a Pompei », paru dans « Cronache Pompeiane 5, 1979 ». Et dans la tombe elle-même, il y avait d'ailleurs un tube à libation qui aboutissait à côté de l'urne et qui donc servait à cet usage. En effet, après le dernier baiser et la conclamation, on commençait la toilette funéraire. Le corps était lavé à l'eau chaude et enduit de parfums, à la myrrhe, à la résine de cèdre, au miel, au baume, qui était destiné à permettre cette exposition du corps. Et on en a de nombreux attestations chez divers auteurs, par exemple dans la satire 3 de Perse, où il est dit « Notre jeune homme, posé sur un lit de parade et tout enduit de parfum, est étendu à la porte, les pieds devant. » Et dans un passage d'Apulée, Floride 4.19, il est dit à propos du médecin Asclépiade qui ressuscitait un mort, il est dit « Asclépiade contemplait ce malheureux dont les membres étaient déjà saupoudrés d'aromates, dont le visage était déjà recouvert d'une pommade, ou en tout cas d'un onguent, et en l'honneur de qui se préparait déjà le repas funèbre. » Ces opérations étaient réalisées par les proches ou par des polinctores qui plaçaient des flacons sur le lit funéraire pour indiquer que le corps avait été parfumé et on jetait ces flacons sur le bûcher avec des vivres. Au moment du bûcher, on brûlait les parfums, et surtout de la myrrhe et de l'encens, de la cannelle, afin d'honorer les dieux, et plus prosaïquement, de couvrir l'odeur du bûcher brûlant le cadavre. Ces résines étaient brûlées dans des brûles-parfums qu'on retrouve fréquemment dans les tombes, comme à Cumes, par exemple, et qui sont représentées sur des bas-reliefs, comme celui des Atterii au musée du Vatican. Et vous voyez ici sur cette photo de grands brûle-parfums qui sont en train de brûler probablement de l'encens et des résines aromatiques. Pline, au livre 12, paragraphe 84, s'interrogeait de façon ironique pour savoir quelle proportion d'encens revient aux dieux du ciel et de l'enfer. Et il pestait à nouveau contre le luxe déployé par les hommes, même dans la mort, en employant à brûler les défunts ce que l'Arabie pensait avoir produit pour honorer les dieux. Les funérailles des personnages importants étaient donc l'occasion d'une consommation importante de résine à brûler, notamment d'encens. Nous avons vu le cas de Marcus Aubelius Firmus, mais les principaux personnages de l'État, lorsqu'on les enterrait, on atteignait des consommations énormes. Plutarque rapporte que lors des funérailles de Sylla, 210 lits servaient au transport des aromates. En 20 après Jésus-Christ, lorsque Tibère fit ramener par deux cohortes prétoriennes l'urne funéraire de Germanicus à Rome, Tacite, dans les Annales, livre 3, paragraphe 2, nous dit « quand on traversait les colonies, le peuple en habit de deuil, les chevaliers revêtus de la trabée, brûlaient, suivant les ressources du pays, des étoffes précieuses, des parfums et tout ce qu'on offre aux morts pour leur rendre hommage. Et enfin, Pline s'indigne des quantités d'encens que Néron brûla pour les funérailles de Poppée, et ce qu'il faut entendre, bien sûr, comme une diatribe contre le tyran et aussi une manifestation de ses excès. Les tyrans, bien entendu, sont stigmatisés parce qu'ils utilisent des parfums, ce qui est contraire, comme nous l'avons vu, aux usages anciens. Mais tout cela, c'est principalement de la polémique et de la littérature. La réalité, c'est qu'on utilisait très fréquemment, dans toutes les classes de la société, des parfums conversés sur le bûcher ou sur les eaux brûlées. Virgile, relatant les funérailles de Misène, rapporte « Alors, on expose sur le lit les membres inondés de larmes. On y jette des étoffes de pourpre. D'autres ont soulevé l'énorme civière. Et se détournant selon la coutume ancestrale, ont tenu la torche inclinée. On brûle les offrandes entassées, l'encens, les mets sacrés, l'huile déversée dans des cratères. Une fois les cendres affaissées et la flamme éteinte, on arrose de vin les restes et la poussière assoiffée. Corinée recueille les os qu'il conserve dans une urne de bronze. Lui aussi fit trois fois le tour de ses compagnons, les aspergeant d'eau pure, à l'aide d'une brindille de romarin, d'un rameau d'olivier fécond. Il les purifia et prononça les ultimes paroles de la cérémonie. C'est dans l'Énéide, donc au vers de livre 106, vers 224-232. Et cette pratique donc d'arroser les restes de vin et de parfum se retrouve aussi dans une satyre de Perse, satyre 6, vers 34 et suivant, qui dit Si je diminue l'héritage, l'héritier m'en voudra. Il négligera le repas funèbre, jettera mes restes dans l'urne non parfumée, et que la cinname soit passée ou la cannelle altérée, il ne s'en inquiétera guère. Et de même, dans le Satyricon, Trimalcion prévoit de faire parfumer son corps avec du nard lors de ses funérailles. Et lors du fameux banquet, il débouche une fiole de nard et fait frictionner à la ronde de ses invités, disant « J'espère qu'il me fera autant plaisir après ma mort que maintenant. » Et c'est au paragraphe 78.3. C'est d'ailleurs le parfum choisi par Comminius Abascantus qui, à Misène, demande qu'on verse du nard sur ses eaux. « Super reliquias meas nardum effundi. » Ovide, dans les Fastes, livre 3, vers 561, à propos de la mort de Didon, et, qui est morte après l'abandon par Énée, écrit « Anne est chassée du palais, elle le quitte en pleurant ses murs qui rappellent une sœur chérie. Mais elle veut encore rendre un dernier hommage au reste de Didon. Elle verse des larmes et des parfums sur cette cendre légère, elle y dépose quelques boucles de ses cheveux. » Et en effet, donc, on déposait les flacons dans la tombe, dans le mausolée, comme le recommande d'ailleurs à nouveau Trimalcion à son marbrier, Abinas, qu'il avait invité à son banquet, et lui dit « Je te prie instamment de placer au pied de ma statue, ma petite chaîne, des couronnes et des parfums. » Et où on le pouvait, donc, bien sûr, déposer ses vases dans le mausolée lui-même ou dans une fosse ou directement dans l'urne. C'est d'ailleurs là le stade final où les archéologues les trouvent. Toutes les nécropoles d'époque républicaine et d'époque impériale livrent de grandes quantités de vases à parfum. J'ai pris comme exemple le cas de la nécropole de Cum que nous sommes en train de fouiller depuis un certain nombre d'années avec le centre Jean Bérard, où on a des tombes de citoyens du 1er siècle avant Jésus-Christ en assez grand nombre, en tout cas en nombre suffisant pour avoir une bonne idée des pratiques. Ce sont, dans une très large majorité, des incinérations qui comprennent des sujets féminins ou masculins, des citoyens. Alors, la nécropole de Cum que nous sommes en train de fouiller, vous voyez sur cette photo la ville elle-même, l'acropole et les remparts qui suivent cette ligne d'arbres qui traverse la diapositive en diagonale. La nécropole se situe au nord, donc dans cette partie, et nous avons donc un grand nombre, plus d'une cinquantaine de tombes du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui appartenaient à des citoyens, on le sait par les inscriptions qui ont été retrouvées et qui sont en général en place. Et ces tombes donc recèlent systématiquement des urnes qui ont recueilli les eaux brûlées des défunts, et comme vous pouvez le voir sur ces trois exemples, soit des flacons à parfum dans l'urne elle-même, soit le plus souvent autour de l'urne, et vous les voyez ici, les flacons sont couchés, probablement, comme on les trouve systématiquement couchés, on imagine qu'ils étaient vides, bien sûr, puisqu'on s'en était servi, soit pour enduire le corps, soit pour verser du parfum sur les eaux brûlées. C'est aussi le cas, par exemple, de la nécropole de Calatia, qui est une ville au nord de Naples, enfin dans la région de Caserta, où on a une nécropole dont la période d'utilisation s'étend depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque impériale. Et au début, on a principalement des dépôts d'alabastre et d'aribal étrusco-corinthien au VIe siècle principalement. Puis au Ve, IVe siècle, on a surtout des lécites à raison d'une tombe en général, enfin d'un lécite par tombe en général. Et puis on assiste à la fin de la République à une explosion du nombre des vases à parfums locaux qui se poursuit à l'époque impériale. Et vous voyez ici un exemple donc, de cette inflation de l'utilisation des vases à parfum dans le cas de la tombe 173, qui est datée de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ ou du tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, qui comptait pas moins de 30 flacons en terre cuite. Une autre tombe, la tombe 170, contenait 5 flacons en terre cuite et 3 en verre déposés autour de l'urne. Et toute cette nécropole a été récemment publiée par Elena Laforgia dans le catalogue du musée archéologique de Calatia en 2003. À Pompéi, dans les tombes de la Porta Nocera, fouillées par William Van Andringa, on versait les parfums dans des tubes à libation qui aboutissaient dans l'urne par un orifice. Et on en a d'autres exemples dans notre nécropole de Pompéi. On a vu le cas tout à l'heure de la tombe d'Obelius Firmius, mais c'est aussi le cas d'une autre tombe célèbre, celle de Nevelia Tike à la Porta Herculane. Donc c'est une pratique extrêmement courante. Dans une étude générale sur ces questions effectuée par Agnès Bonnet en 2006, étude qui porte sur les nécropoles d'Italie, on voit que le nombre de flacons à parfum augmente nettement entre la fin de l'époque républicaine et l'époque impériale, mais que leur proportion par rapport au reste des offrandes reste stable, autour de 40% environ, ce qui traduit peut-être une augmentation du niveau de vie moyen plus qu'un développement de l'usage. Les flacons en verre eux-mêmes remplacent les flacons en terre cuite à partir principalement du deuxième quart du 1er siècle après Jésus-Christ et deviennent à partir de cette époque le conteneur principal de ce type de parfum. On pourrait donc multiplier les exemples. Il faudrait faire une enquête systématique que je n'ai pas pu faire, bien entendu, parce que c'est un énorme travail. On pourrait multiplier les exemples dans toutes les provinces de l'Empire. Par exemple, à Stobie, qui fut capitale de la province romaine de Macédoine, sur 313 tombes des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, 68 contenaient des offrandes et 29 recelaient des unguentaria. Certaines tombes contenaient jusqu'à 20 vases à parfum, ce qui montre donc la même inflation que nous avons vue à Calatia. C'est aussi le cas en Gaule-Narbonnaise, où la coutume d'utiliser les parfums et de déposer les flacons dans les tombes se répand à partir du 1er siècle. Citons par exemple le cas de la nécropole du Pauvadou à Fréjus, où les flacons en verre, les unguentaria, représentent 40% du mobilier, ou celle de Valadas à Saint-Paul-Trois-Châteaux, où selon une étude de Valérie Bell, publiée en 2002, les flacons en parfum vont jusqu'à former 70% des offrandes au cours des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Dans la nécropole d'Aix-en-Provence, dans la nécropole méridionale, qui vient d'être publiée par Nurianine en 2006, les tombes mises au jour appartiennent principalement à des personnages modestes, mais quelques-uns sont en mesure de payer un enclos funéraire ou un petit monument. Mais toutefois, pour l'essentiel, ce sont principalement des tombes à fosses. Alors, j'ai retenu 24 tombes de la fin du 1er siècle et du 2e siècle, et dans trois cas, probablement des tombes en incinération les plus anciennes de la fin du 1er siècle, les eaux brûlées sont recueillies dans des urnes en verre, protégées dans des coffres de plomb et contiennent des flacons à parfum. Les autres 21 incinérations du 2e siècle sont déposées dans des urnes en céramique commune ou bien dans des amphores décolletées et contiennent beaucoup plus rarement des balsamères. Seulement deux en contiennent un et une seule trois. Donc, il semble que dans la colonie latine d'Aix-en-Provence, la tradition d'enduire les corps des parfums avant de les brûler soit en voie d'extinction, au moins dans les classes populaires, au cours du IIe siècle, à moins que ce soit un problème lié à la cherté de ces produits. Nous le verrons en conclusion, c'est un point sur lequel il faudra travailler à l'avenir. Alors, comme évidemment dans le monde grec, on a utilisé les parfums comme médicaments, et on en a une source bien claire dans les textes juridiques. Par exemple, dans le Digeste, qui nous indique en 34.2.21 que les legs d'onguent concernent non seulement ceux dont on se sert pour le plaisir, voluptas, nous dit-on, mais aussi ceux qui servent pour la santé, et que sont la comagène, l'huile de glossium, l'huile de lys, de rose, la myrrhe, le colum, le narpur. Et les legs d'onguent concernent aussi, évidemment, ceux qui servent aux femmes à être plus élégantes et plus propres en s'enduisant de parfum. Selon Pline, au livre 34, paragraphe 108, il dit « Aujourd'hui, chaque fois que les médecins tombent sur un livre de remède et qu'ils veulent le composer d'après ses prescriptions quelques médicaments, c'est-à-dire faire l'épreuve des cahiers de remède aux dépens des malheureux malades, il se fie à la séplasia. » La séplasia, c'est donc l'ensemble de la corporation des parfumeurs. « La séplasia qui gâte tout par ses fraudes. Ils achètent tout fait aujourd'hui leurs emplâtres et leurs colliers, et c'est ainsi qu'on écoule les drogues avariées ou les contrefaçons de la séplasia. » Mais ce jugement sans appel de Pline, comme toujours, fait bon marché des médecins consciencieux, et il en existait, qui composaient eux-mêmes leurs médicaments. Et on en a quelques exemples archéologiques désormais, comme cet extraordinaire médecin dont la tombe a été découverte en 1847 à Saint-Médard-des-Prés, en Vendée. Elle contenait tout un attirail médical et pas moins de 80 flacons de verre contenant des substances médicamenteuses. Alors, l'histoire vient d'être récemment débrouillée par Jacques Centreau et Sophie Corson dans un article qui vient de paraître, qui s'appelle « Pigments cosmétiques ou médicaments ?» point d'interrogation, dans la tombe gallo-romaine de Saint-Médard-des-Prés en Vendée, paru donc en 2012. Cette tombe qui avait été fouillée par Benjamin Fillon en 1847 et avait été interprétée à l'époque comme celle d'une femme artiste, parce qu'on avait imaginé que tous ces flacons ne pouvaient appartenir qu'à une femme, et comme il y avait quelques instruments pour broyer, semble-t-il, des couleurs, on avait pensé qu'il s'agissait d'une femme peintre. Et c'est une tombe qui a été découverte à proximité d'une villa, une riche villa à la campagne, occupée entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ, et le personnage qui a été inhumé est paré d'un collier d'argent, ce qui avait donc fait penser à une femme, mais qu'on peut interpréter différemment. Le personnage était entouré donc de 80 flacons de verre, d'un mortier, d'un coffret en fer d'oculiste, de deux petites cuillères en bronze, de deux cuillères en cristal de roche et d'une tablette à broyer. La cuillère servait à prélever de petites quantités de matière précieuse, et il faut imaginer donc que plutôt qu'une femme artiste, il s'agit d'un médecin qui devait être un oculiste aussi, puisqu'il est accompagné de tout un attirail lié à l'exercice de cette profession, et notamment tout ce qui sert à broyer des remèdes dont il se servait pour soigner notamment les yeux, mais probablement pas uniquement. Nicolas Garnier vous a parlé la semaine dernière des analyses qui ont pu être faites dans certains de ces flacons. Il est malheureusement dommage que la découverte remonte au milieu du 19e siècle. Si on la faisait aujourd'hui, on aurait bien sûr beaucoup plus d'enseignements. Certains de ces parfumeurs ou pharmaciens exerçaient leur métier pour le compte de l'armée romaine, ce qui est assez logique, car évidemment, il faut soigner les soldats si on veut qu'ils soient efficaces dans la défense. Et on a donc, pour cette profession, quelques indications écrites, principalement, qui viennent surtout de la partie nord de l'Empire, parce que c'est dans ce secteur que les matières organiques se conservent. Et on a deux textes sur bois. Le premier est trouvé à Carlisle, en Grande-Bretagne, où un certain Albanus est qualifié de Ceplasiarius de la 20e Légion Valeria Victrix. C'est une inscription qui a été publiée dans l'année épigraphique 1991, numéro 1154. Et on a un autre exemple d'un Ceplasiarius, donc certainement quelqu'un qui importe, qui fabrique des médicaments ou des parfums, c'est toujours difficile à distinguer, un certain Vitalis qui était probablement attaché à l'hôpital militaire de la 9e cohorte des Bataves à Vindolanda, là aussi en Grande-Bretagne. Et sur le continent, on a aussi le cas d'un autre Ceplasiarius attesté à Mayence, dans la première légion Adiutrix. On a donc tout un corps de ces pharmaciens parfumeurs attachés aux hôpitaux militaires, mais peut-être aussi chargés d'approvisionner les thermes, comme nous le verrons. Les auteurs grecs et latins d'époque impériale, les encyclopédistes comme Pline, et surtout les médecins comme Cels, Dioscoride et Galien, évoquent des centaines de remèdes aux applications thérapeutiques variées. Je ne vais pas les détailler, ça ferait l'objet d'un travail complet. Mais il y a donc toute cette longue pratique que l'on retrouve chez Dioscoride, chez Galien. Et plus tard, malgré la charge des pères de l'Église contre les parfums, il sera significatif que des auteurs comme Clément d'Alexandrie feront une exception pour l'usage des parfums réservés à soigner. Et dans le Pédagogue, au livre 2, il dit « Employé seul, l'huile suffit à graisser la peau, détendre les nerfs, refouler la mauvaise odeur du corps au cas où elle serait trop pénible. » Et il admet malgré tout l'usage de ces parfums dans ce cas-là. On utilisait aussi le parfum, comme nous l'avons vu, pour parfumer le vin, pratique déjà évoquée par Théophraste et bien attestée ensuite dans la littérature agronomique de Caton à Palladius. Je ne m'y étends pas, je veux simplement rappeler que dans le fameux banquet de Trimalcion, qui est une mine sur la vie quotidienne, au paragraphe 70, Trimalcion fait mettre un onguent dans les vases à vin et dans les lampes, donc pour parfumer le vin et l'atmosphère. Et dans l'histoire Auguste, il nous est rapporté qu'Elagabal, le premier, imagina le vin au mastic, le vin au pouliot et toutes ces inventions que le luxe a conservées. Le vin rosa était connu avant lui, mais il ajouta des pommes de pin concassées pour le rendre plus odorant. Et c'est donc dans la vie d'Elagabal, au paragraphe 79. Pour le bien-être et le luxe, l'usage des parfums était universel et on s'en servait aussi bien pour les femmes que pour les hommes au sortir du bain et lors de banquets. L'augmentation considérable du nombre des établissements de bain publics a eu certainement pour corollaire une augmentation parallèle de la consommation des huiles parfumées. Et pour donner une idée, pour la seule ville de Rome, on comptait 170 établissements thermaux sous Agrippa et 956 dans la Notitia Dignitatum au IVe siècle. Toute ville possédait des établissements, et même les villages et les petits camps militaires, même au fin fond du désert oriental d'Égypte, où nous travaillons ces dernières années, les petits postes militaires qui garnaient les voies caravanières, comme celui de Didumoy, dont, avec Hélène Cuvigny, nous venons de publier la fouille, même ces petits postes contenaient, enfin, à l'intérieur, des petits thermes destinés aux militaires, où on imagine qu'ils passaient un temps important. Et ce genre de petit terme est répandu de partout. C'est une des caractéristiques de tous les gisements de l'époque impériale. Et on allait au terme avec sa fiole à parfum, ou parfois on le trouvait sur place, pour se faire masser à la sortie du bain. Et à nouveau, rappelons le Satyricon où on nous dit déjà Trimalcion, inondé d'onguents, se faisait frotter non pas avec du lin, mais avec du molleton fait de laine la plus douce. Comme antérieurement, donc, on se rendait au bain pour y être parfumé, et l'hôte s'occupait de faire parfumer non seulement la salle, mais aussi les invités, et il était d'usage d'offrir des parfums lors du second service de repas, lors des banquets, comme en témoigne l'épigramme de Martial en 382. Et c'est d'ailleurs à l'image de cette pratique qu'on enduisait les statues de culte au cours des banquets où les dieux étaient invités. Dans les rites consacrés à Deadia, à la Maléane, dans le sanctuaire de la Maléane au sud de Rome, les frères Arval parfumaient la déesse en guise de second service, comme l'a interprété donc John Shade. Redescendant des banquets du vin dans les réceptions réelles, on trouve un reflet de cette pratique courante dans l'aristocratie à travers les caricatures. Ainsi, dans le Satyricon, Trimalcion fait enduire ses invités à la fin du banquet avec un parfum de grande qualité. Par une mode inouïe dans nos mœurs, de jeunes esclaves aux longs cheveux apportèrent dans un bassin d'argent de l'huile parfumée dont ils oignirent les pieds des convives après les avoir enguirlandés de fleurs de la cuisse au talon. Puis on versa ce même parfum dans les vases à vin, comme on vient de le voir. Et quand le marbrier Abinas arrive avec quelque retard au banquet, il est déjà ivre, la main posée sur l'épaule de sa femme, le front orné de plusieurs couronnes et humide de parfums qui lui coulaient dans les yeux. Et il vint se mettre à la place d'honneur et sur le champ demanda du vin et de l'eau chaude. Donc, on a cette caricature et qui couvre tous les emplois du parfum dans les banquets, puisque à un moment donné, Trimalcion, qui se veut princier, offre des parfums tombés du ciel et soudain, le plafond s'ouvre et l'on voit descendre un immense cerceau enlevé vraisemblablement à un énorme tonneau qui portait suspendu autour des couronnes dorées et des flacons à parfum. Et ainsi donc, on voit que cette pratique, qui était déjà très courante à l'époque grecque, se perpétue, bien entendu, à l'époque romaine et se multiplie. Alors que ce soit lors des banquets ou lors des spectacles, la prodigalité du prince se manifestait aussi dans des aspersions de parfums sur les convives ou sur les spectateurs. Et dans la Domus Aurea, par exemple, des tuyaux étaient ménagés pour permettre l'aspersion des parfums sur les convives, comme nous le rapporte Suétone dans La vie de Néron, au paragraphe 31. Et la mode s'était aussi répandue de projeter des parfums sur les spectateurs du théâtre. Martial, par exemple, dans le livre 5 des Épigrammes, l'épigramme 5-25, nous dit « Ne serait-il pas mieux en vérité d'agir ainsi que de faire flotter sur la scène une brune empourprée et d'asperger les spectateurs d'essence de safran ?» Dans un autre recueil où il évoque les touristes visitant Rome, il ironise sur les Siciliciens arrosés de parfums de leur pays, c'est-à-dire une espèce d'arroseur arrosé, si on peut dire. Et Sénèque mentionne aussi cette pratique dans la lettre 90 à Lucilius, en évoquant les tuyaux cachés servant à faire monter le parfum au safran à une hauteur prodigieuse. Donc, que ce soit à l'occasion des banquets, de spectacles ou en toute occasion sociale, l'usage de répandre des parfums de prix était devenu la marque de luxe manifestée par les grands, marque que les parvenus imitent. Nous-mêmes, nous sommes parvenus à la fin de l'heure. Il me reste quelques points encore à aborder pour la période romaine, notamment celui qui concerne la séduction et les conclusions que je voudrais tirer sur les futures pistes de recherche sur les usages de parfums. Nous les aborderons au début du cours prochain, c'est-à-dire pas celui qui vient, mais celui qui aura lieu dans 15 jours, où je voudrais à la fois finir de parler des usages, et principalement des usages concernant la séduction, examiner quelles sont les lacunes et quelles pourraient être les pistes, notamment archéologiques, pour tenter de les combler, et nous passerons ensuite à l'examen de la production elle-même et des installations de parfumeurs, en commençant par les installations anciennes, puis en abordant les installations d'époque hellénistique, et notamment celles que j'ai eu l'occasion de fouiller dans l'île de Délos dans les années 1990. Je vous remercie.